Ce matin, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai partagé avec mon épouse sur ce culte, avant qu'on puisse discuter, on était d'accord sur les mêmes thèmes. Donc c'est intéressant ce que le Saint-Esprit peut faire. S'il pouvait faire ça dans tous les aspects de nos vies, on serait content, mais souvent il le fait et nous on l'écoute pas. Ce matin, je vais vous demander, est-ce que vous savez dans votre vie, sur une journée à peu près, combien de moments de silence vous avez ? Je vous regarde un peu tous. C'était quand le dernier moment de silence que vous avez connu ? Ce matin ? La nuit aussi, c'est souvent propice au silence. Si tant est que vous dormez seul, sans une rue pas trop loin, avec des voitures qui passent. Ou bien on a ce merveilleux appareil à la maison que vous n'avez peut-être pas, mais que vous pourrez vous procurer. Ça s'appelle un babyphone. Et c'est super la nuit quand on dort. Et qu'on brise comme ça un beau moment de silence et de sommeil. Alors ce matin, je vais vous parler sur le silence. Sur le silence, il y a beaucoup de choses à dire, ce qui est assez paradoxal. Et déjà, la première chose, c'est est-ce qu'on ne devrait pas un peu plus garder le silence ? Est-ce que on sait garder le silence au bon moment ? Dans mon expérience professionnelle, en tant que professeur, quand je prends un élève en train de déroger au règlement intérieur, dirons-nous, est-ce qu'à votre avis, il garde le silence ? Est-ce qu'il baisse les yeux en disant pardon ? Non, généralement, on a le droit à tout un tas d'explications. Très intéressantes, tu pourrais écrire des livres. Mais c'est pas moi, non. Oui, mon cahier était ouvert pendant l'interrogation, mais c'était juste... Non, je regardais mon téléphone, c'était juste pour regarder l'heure, rien d'autre. Oh, puis il y en a d'autres qui le font, hein. Pourquoi c'est moi qui prends ? Ça nous fait sourire. Hein. Mais est-ce qu'on n'est pas pareil au final ? Regardez juste le premier péché dans la Bible. Dieu arrive. Ah non, mais c'est la femme. Non, mais c'est le serpent. Dans Genèse 3, l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » En plus, c'est même pas juste c'est la femme que toi, Dieu, tu m'as donnée. Ah bah, fallait pas me donner de femme comme ça. Hein. C'est facile, hein. On pourrait dire le péché est facile. Dieu a placé l'arbre au milieu du jardin d'Éden, il aurait pu le mettre ailleurs, il aurait pu le faire surveiller. On a l'impression que Dieu n'est pas là au moment où on croque ce fruit. Dieu aurait pu leur dire stop, arrêtez-vous. Mais comme je l'avais déjà dit dans des précédents messages, Dieu nous a donné par son amour un libre arbitre et nous a laissé choisir, même si ce choix impliquait de faire le mauvais choix. L'homme aurait dû savoir se taire et dire oui, j'ai péché, et s'arrêter là. On peut dire que le péché est facile, mais est-ce que si on le rendrait plus facile encore, ce serait pas pire ? Imaginez demain, les amendes pour excès de vitesse, elles passent à 1 euro. 0 point de perdu. Pas de permis annulé ou de voiture saisie. Qui respectera les limites de vitesse ? Si on rendait le péché encore plus facile, qu'est-ce que notre nature humaine nous pousserait à faire ? Et je suis certain que même dans ces circonstances-là, avec une amende à 1 euro, il y aurait des gens qui arriveraient à dire « Non mais vous êtes sûr, votre radar ? Non, je dépassais pas les limites. » C'est pas fou ça ? On argumenterait toujours. Et c'est pas parce qu'on est français qu'on est râleur, qu'on aime bien dire ça, ouais, mais les Français. Je pense que dans n'importe quel pays, hein, vous dites, l'amende, elle est bien réduite. Plein de gens se diront, bon, bah, profitons-en, hein, on va aller plus vite. Est-ce qu'on sait garder le silence ? Est-ce que, comme Adam et Ève, on sait, enfin, contrairement à Adam et Ève, on sait se taire face à Dieu ou est-ce qu'on va dire non, mais c'est toi au final qui a amené les circonstances qui ont fait que j'ai péché ? Ou comme Ananias et Saphira, est-ce qu'on essaye de mentir pour cacher la chose ? Ou bien est-ce que comme David, quand il répond à Nathan, un homme qui a fait ça mérite la mort, et que Nathan lui dit mais c'est toi cet homme ? Comment réagit David ? Là il baisse la tête. On devrait être dans la même situation que si on était face à Jésus. Face à Jésus, il y a eu plusieurs situations où les gens ne savaient plus quoi répondre. Je vais vous lire dans Luc 14 quelques versets. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. On est quand même dans la maison des spécialistes. Les docteurs de la loi, les pharisiens, à l'époque, on va dire la crème de l'élite, qui sont pas capables de répondre à une simple question. Et ils ont essayé de faire la même chose et de poser des questions tellement complexes que Jésus garderait le silence. Dans Luc 20, ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?»« De César, » répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il ne put rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Tel est prix qu'ils croyaient prendre. Ils ne sont pas capables de répondre aux questions simples que Jésus leur pose. Ils ne sont pas capables de se rendre compte qu'en effet, si leur enfant tombe dans un puits le jour du sabbat, comme c'est écrit, ils vont pas le laisser dedans en disant « Attends 24 heures et on arrive. » Et quand eux-mêmes essayent de piéger Jésus avec une question à laquelle nous, on aurait bien du mal à répondre aujourd'hui, au final, c'est eux qui se retrouvent encore obligés de garder le silence face à Dieu. Et je pense que dans nos vies, dans nos circonstances, on est souvent trop bavard à se justifier, à chercher des excuses. On est souvent trop prompt à parler. Alors je vais peut-être faire mal à quelques-uns, mais Jorgen est sorti, j'en profite. Lors du match de l'équipe de France, moi je regardais les commentaires quand il y avait 3-1 pour la France. Et à ce moment-là, on les entend. Le match était déjà gagné. On était déjà champion même pour certains. On est très prompt à parler. Et puis quand 3-2, 3-3, et puis finalement la défaite, là qu'est-ce qu'on dit? Ou comme lors d'un match précédent, « Ah mais France Hongrie, vous avez vu la température qu'il y avait quand même. » Et puis le nombre de supporters hongrois. On va toujours parler, chercher des excuses, chercher des justifications. On va être prompt à parler et lent à écouter, alors qu'il me semble que la parole nous demande un petit peu l'inverse. Mais face à Dieu, un jour, on va se retrouver face à face. Et comme tous ceux qui sont trouvés face à Jésus et qui ont essayé de lutter contre son enseignement, là, on n'aura pas le choix que de garder le silence. Comme lors aussi de ce jugement de la femme adultère. On lui amène une femme adultère. Qu'est-ce qui se passe ? Jésus ne dit pas des milliers de choses. Il ne prend pas la parole pour justifier et pardonner. Il n'essaye pas de dire « oui, mais les circonstances, on les connaît pas, peut-être que son mari est pas parfait non plus, etc. » Il dit juste une chose, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et tout le monde garde le silence, et chacun s'en va un par un. On a un Dieu qui n'est pas là, lui, à justifier contre nous, et il aurait de quoi le faire. On a simplement un Dieu qui, lui, n'a jamais péché, mais ne nous jette pas cette pierre par choix. Au contraire, il veut non pas nous condamner, mais comme Jésus a fait avec cette femme adultère, nous pardonner. Alors il faut apprendre à se taire face à la toute-puissance de Dieu et face à son intelligence qui nous dépasse. Et il y a plein de versets, vous tapez le mot « silence » dans un moteur de recherche biblique et vous allez en avoir pléthore. Je ne vais pas tous vous les lire ce matin, mais dans Habacuc, « L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Dans Zacharie, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Dans Sophonie, silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Dans les psaumes, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Si autant de versets nous apprennent à garder le silence et nous encouragent à garder le silence face à Dieu, soyons sages. Qui se retrouve lors d'un contrôle de police à hurler sur un policier et à lui manquer de respect? Est-ce que ça va améliorer la situation? Et pourtant, on a un monde qui est en train de faire ça, qui est en train de hurler contre Dieu. On a un monde qui est en train de reprocher à Dieu tout ce qui se passe. Ou bien, s'il ne se passe rien, de lui reprocher son absence. Il y a eu tel tremblement de terre. Ben, si Dieu existe, c'est que c'est lui qui l'a déclenché. Ou bien, s'il existe, pourquoi n'intervient-il pas? On les entend, ces choses-là. Ou des personnes qui vivent des choses difficiles, qui vivent des maladies, des décès et autres, qui disent, ben, si Dieu est là, pourquoi? C'est la même chose que de se retrouver face à un policier quand on a fait 40 km/h d'excès de vitesse et de dire « Pourquoi vous êtes là maintenant et quand on a besoin de vous, vous n'êtes jamais là ?» On est lent à reprocher à Dieu, on est prompt à reprocher à Dieu tout ce qui se passe et on est lent à réaliser tout ce qu'il fait. On est dans un monde bruyant. On vit dans un monde de bruit. Les bruits de la ville, et tous ces discours qu'on entend et qu'on voit partout. Un monde qui parle sans savoir, sans sagesse, sans connaître, qui parle de tout, et qui nie Dieu et ses vérités. Et ce monde-là qui est aussi prompt à dire des tas de choses contre notre Créateur. Et à un moment donné dans la Bible, où ce monde-là va garder le silence. Est-ce que vous savez quand? Il y a un moment dans la Bible, dans Apocalypse, Apocalypse 8 au verset 1, « Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » C'est marrant que ce soit précisé et que ce soit chronométré. Il se passe plein de choses dans l'Apocalypse, et je ne rentrerai pas dans les détails de tout ce qui se passe. Mais il y a un moment donné où la terre parle, où les hommes parlent et parlent beaucoup contre Dieu et contre son action. Mais il y a un moment donné où, peu importe qui vous êtes sur cette terre, peu importe votre degré de puissance, de richesse, d'importance aux yeux de ce monde, il y a un moment donné où tout le monde sur la terre va fermer sa bouche, va garder le silence et va se taire. Et tous ceux qui auront dit et qui auront critiqué, tous ceux qui auront affirmé que Dieu n'existait pas, tous ceux qui se seront attaqués à lui, tous ceux qui, sous des revers de laïcité, de tolérance, ou tous les discours qu'on peut entendre aujourd'hui s'attaquent à l'existence de notre Dieu et à sa toute-puissance, tous ceux-là, à ce moment-là, seront dans le silence. On s'imagine à tort que la présence du Saint-Esprit en nous, on l'a que dans des moments parfois de joie, de liesse, comme quand David danse devant l'Arche de l'Alliance qui retourne en Israël. Mais il y a aussi des moments solennels qui nécessitent le silence, qui nécessitent de s'arrêter. Comme la parole dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. D'arrêter nos pensées, nos raisonnements. D'arrêter de penser au lendemain et au surlendemain. D'arrêter de penser à ce que le monde va penser de nous, à ce que mon collègue va dire si je dis ça ou si je ne fais pas ce qu'il veut. Arrêter de faire ce que les autres nous disent de faire, ce que notre vieil homme nous dit de faire. Simplement s'arrêter, se taire et écouter. Comment pourrais-je parler si je n'écoute pas? Il y a quelque chose d'important, c'est que réussir à se taire, au final, c'est laisser parler l'esprit. C'est ce que la parole nous dit, ce que Dieu nous dit dans Matthieu. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Mais si au contraire, on s'inquiète de la manière dont il faut parler, de ce qu'il faut dire, et qu'on commence à essayer de se justifier, de dire et de raisonner, eh bien, tout cela, c'est comme de l'airain qui résonne, c'est creux et vide. Et je suis capable, moi, de faire des analyses de texte, de faire des études de documents, de faire des résumés. J'ai appris ça dans mes études. J'ai fait des tas de trucs. Mais si je prends la Bible et que je commence à essayer d'en faire une analyse détaillée d'un point de vue littéraire en disant, bah, tiens, là, telle figure de style, elle s'appelle comme ça. C'est bien, hein? Quel intérêt? On va écouter une jolie oraison ce matin. On va être là. Oh, il a bien parlé, hein. Puis il a bien mis ensemble les différents passages. Et si je fais ça à la manière du monde, quel intérêt? Il y a des gens qui parlent très bien dans le monde. Et sinon, ce que je peux faire aussi, c'est me taire. Me taire moi en tant qu'homme et laisser parler le Saint-Esprit. Et laisser parler ce que dit la Bible. Ça veut pas dire que je peux me tourner les pouces pendant des semaines en disant « Oh, je suis de message dimanche prochain, le Saint-Esprit parlera bien par ma bouche, laissons-le agir. » Dieu ne nous dispense pas de travail et ne nous dit pas « Je me suis sacrifié pour toi, maintenant, vis, t'en fais pas, t'as la vie éternelle. » Dieu ne nous a pas appelés à être des fils qui restent à la maison et qui profitent des richesses de leur père. Mais il nous a appelés et il nous a envoyés à être des serviteurs, à être des ouvriers pour la moisson. Il nous a appelés à œuvrer. Laisser parler et laisser agir le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire cesser de réfléchir et cesser d'agir. Ça veut dire, avant d'agir déjà, peut-être écouter. Il y a beaucoup de proverbes qui parlent de cela. Celui qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher. Alors, c'est pas pour cette raison que je lis ce proverbe ce matin. Je vais pas vous dire, je vais en profiter pour faire un message plus court, hein. Faut pas parler beaucoup. Et celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Dieu ne nous appelle pas à nous taire face à tout ce que vit le monde. Dieu nous appelle à faire taire en nous le vieil homme, à faire taire en nous les raisonnements humains, à faire taire en nous toutes ces choses que nous avons à cœur parce qu'elles nous plaisent, nous, mais qui peuvent être des choses qui déplaisent à Dieu. Dieu nous appelle simplement à être d'abord à l'écoute de son Saint-Esprit. Et une fois qu'on aura écouté, une fois qu'on aura entendu, on pourra faire ce que Dieu nous demande. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, tous les prophètes, comment ça se passe à chaque fois? Dieu leur dit une chose et ils vont la dire. Avez-vous vu un prophète qui se lève et qui va parler de lui-même? Il y en a, hein. Quand David dit « Je vais construire une maison pour Dieu », que lui dit le prophète? Bonne idée, vas-y. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Dieu va parler au prophète en disant « Non, non, c'est pas David qui va construire mon temple, c'est pas ce que moi j'ai prévu. C'est pas vos plans humains, c'est mon plan qui va s'accomplir. » Dieu nous invite tous à être des prophètes sur cette terre, c'est-à-dire à rapporter ses propos. Et pour les rapporter correctement, Dieu nous appelle à écouter d'abord. C'est ce qui est écrit dans Jacques 1, verset 19. « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Comment pouvons-nous être capables de répondre à tout ce que le monde nous balance comme mensonge, comme attaque, si on n'est pas capable au final de rester lent à se mettre en colère et lent à parler? On a envie de réagir. Je sais pas si ça vous arrive, mais vous écoutez des débats ou des discours sur votre télévision et vous avez parfois envie de vous lever et de dire « Mais non, on peut pas vous laisser dire ça. » On a un Dieu qui ne nous a pas laissés seuls sur cette terre quand il est remonté, mais qui a dit « Je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Je vais vous envoyer une aide. » Comme il écrit dans Romains 8, et Romains 8, je pense que pour beaucoup, c'est un des chapitres qu'on aime bien dans la parole et qui est essentiel sur plein d'aspects. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Nous-mêmes, tout aussi bons chrétiens que nous puissions être. Là, on parle d'apôtres, de disciples, de personnes qui ont connu Jésus face à face et qui ne savent quand même pas ce qu'il convient de demander dans les prières. Mais Dieu nous a choisis et a placé en nous le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Afin que celui-ci s'exprime quand on en a besoin, comme on le disait tout à l'heure, si on se retrouve attaqué devant les tribunaux, pour ceux qui sont persécutés, afin que le Saint-Esprit s'exprime pour demander à Dieu ce qu'il nous convient d'avoir, ce que nous-mêmes, quand on regarde nos vies, qu'est-ce qu'on a envie de demander ? C'est comme mettre un jeune enfant dans un magasin de jouets et lui dire « Tu veux lequel ?» ou dans un magasin de bonbons. « Tu ne peux en avoir qu'un, choisis. » Ah. On est face à un Dieu tout-puissant et plein de bénédictions envers nous, mais on ne sait pas ce qu'il convient de dire ou de demander. Alors Dieu nous a envoyé son Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que je peux vous dire ce matin ? Gardez le silence, taisez-vous, gardons la bouche fermée. Et si tous les chrétiens de la terre se taisaient, qu'est-ce qu'on entendrait ? Non, ce matin, je vous invite à garder le silence, si c'est pour de mauvaises raisons que vous avez envie de parler. À garder le silence si c'est ce qui vient de la chair qui a envie de sortir de votre bouche. À faire taire vos propres envies, vos jalousies, vos convoitises, votre orgueil. À faire taire toutes ces justifications ou accusations qui vous viennent. Parce qu'on n'a pas à se justifier, on est sauvé par grâce. J'ai pas à justifier chacun de mes péchés et à déterminer dans quelles circonstances je les ai faits et à trouver des circonstances atténuantes, comme devant un tribunal. Non, je suis sauvé par grâce, quel que soit mon péché. Et je n'ai pas à accuser les autres et à dire « Ouais, mais regarde Dieu ce qu'ils font dans telle autre église » ou bien « Regarde ce qu'ils font eux. » Parce que c'est Dieu qui est juge. Et c'est Dieu qui condamne. Nous avons à veiller. À veiller sur nos paroles, sur nos pensées. Comme il est écrit dans Colossiens 4, « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Faites l'expérience, arrêtez-vous à la fin d'une journée et dites-vous, « Est-ce qu'aujourd'hui toutes mes paroles ont été accompagnées de grâce ?» Ah, moi, le premier, je peux vous dire que non. Hein. Et je pourrais chercher des excuses en disant, « Oui, mais je suis fatigué. » Je me lève la nuit pour un bébé, tout ça, voilà, j'ai des élèves qui me cassent les pieds, bon, bah, à un moment donné, j'en recadre un. Ouais, c'était mérité. Est-ce que j'ai été dans des paroles accompagnées de grâce ? Est-ce que j'ai été lent à la colère, lent à parler ? Ou est-ce qu'au contraire, j'étais prompt à vider mon sac sur cet élève qui n'a peut-être pas mérité tout cela ? C'est difficile de témoigner quand on n'a pas le droit d'utiliser le mot de Dieu, de témoigner dans un environnement comme celui que je peux connaître au travail, qui est laïque, et je pense que beaucoup d'autres, vous êtes dans ces situations-là aussi, dans vos domaines professionnels, dans vos familles, dans vos relations, parfois être bridé parce qu'on ne peut pas citer le nom de Dieu, parce qu'on ne peut pas parler de Dieu ouvertement. Mais si nous ne témoignons pas non plus à côté, si on est connu comme celui qui passe son temps à hurler sur les autres, à celui qui passe son temps à dire du mal des autres dans leur dos, à celui qui a toujours une parole acerbe contre notre gouvernement. Ah, c'est facile, hein. Écoutez nos ministres, C'est très facile de se dire, mais t'as vu ce qu'il nous a sorti encore? Moi, je parle beaucoup de celui de l'éducation nationale parce que j'y suis un peu lié, mais rester une heure en salle des profs et voyez un petit peu ce qu'on peut en dire, c'est difficile de ne pas se joindre à tous ces discours parce qu'en plus, humainement, on pense la même chose. Est-ce que je suis connu comme celui-là qui passe son temps à parler, pour dire du mal, pour médire, pour mentir, pour se mettre en avant? Ou est-ce que je suis celui dont les paroles sont connues pour être accompagnées de grâce et assaisonnées de sel? Alors je ne sais pas comment mettre du sel dans ma parole, mais la parole nous dit qu'on est le sel de la terre. Dans 2 Pierre, il est dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors je vous demande pas ce matin de faire des efforts humains. Je vous demande pas de vous dire, en tant qu'être humain, faites des efforts, essayez de veiller sur vos paroles. Ce n'est pas par une volonté d'homme que ces choses-là arrivent. On peut avoir une bonne volonté, mais, comme on le sait, la chair est faible. Comme disait Paul, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. Si on ne cherche qu'à faire ce qu'on veut, au final, humainement, si on ne se base que sur notre propre volonté, on va pas aller bien loin. Peut-être que ce message va perdurer et le reste de la journée, vous allez vous dire, ah, je vais aller au château, tout à l'heure, il y a une annonce qui sera faite. Je vais parler avec que des paroles accompagnées de grâce. Et puis ça va tenir 2 heures, 3 heures, et puis quelqu'un va vous bousculer, et puis là, vous allez dire, ah, tu fais quoi? Vous allez reprendre la voiture et quelqu'un va vous doubler, vous faire une queue de poisson, et là, les paroles qui sortiront de vos bouches ne seront plus du tout accompagnées de grâce. Ce n'est pas par une volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Alors, ce qu'on peut faire, et ce que je vous invite à faire ce matin, et pas qu'à vous, je pense que j'ai du boulot aussi là-dessus, c'est réussir à faire silence en soi, pour laisser parler le Saint-Esprit, pour le laisser agir. Et parce que, quelle que soit ma bonne volonté, quels que soient les versets que je peux lire tous les matins dans ma Bible et qui me disent « Ah oui, je devrais faire ci, je devrais faire ça », si je me base sur mes forces humaines, ça tiendra pas longtemps, et parfois ça tiendra même pas la journée. Mais si à un moment donné, je me décide à laisser agir Dieu en moi, si je me décide à oublier un peu mes propres pensées, les choses qui peuvent m'accaparer, et que je me concentre sur ce que Dieu veut vraiment que je fasse, alors là, peut-être que Dieu me permettra de parler de sa part, et d'annoncer des choses et des prophéties, de reprendre ceux qui doivent être repris, de consoler ceux qui doivent être consolés, comme la parole nous le demande. Aussi ce matin, j'ai eu à cœur, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler de cela, avant même que je parle à ma femme de cette idée de silence, et elle a terminé sur ça tout à l'heure. Ça fait du bien, le dimanche matin, de se taire un peu, et juste de louer. Vous êtes pas senti bien quand vous louiez tout à l'heure? Mais est-ce qu'à ce moment-là, on est en train de penser à, tiens, j'ai eu un courrier des impôts qui me rappelle un truc à payer. Oh là là, demain je retourne au travail, j'ai pas envie. C'est sincère, j'ai pas envie d'y aller demain parce que c'est la fin d'année, hein. Il y a plus beaucoup d'élèves et il y a des élèves qui ne veulent plus travailler. Et je peux être là à penser à toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je vais manger ce midi? C'est important. Ça, c'est tous nos raisonnements humains et toutes les choses qui peuvent au final occuper notre esprit. Ou alors je peux me dire, juste, il y a un chant magnifique devant moi, des paroles qui parlent à mon cœur et à mon âme. Je vais les chanter avec toute la force que Dieu me donne de le faire. Même si je chante un peu faux, c'est pas grave. On a des gens devant qui chantent très juste, et ça nous fait du bien d'être guidés comme ça. Ce matin, mes frères et sœurs, je vous invite à essayer de faire taire un petit peu ce qui peut être en vous, et à laisser parler le Saint-Esprit, tout simplement. Et les choses iront mieux d'elles-mêmes. Comme ce chant qu'on chante et qui est basé sur la parole, et qui nous dit « Cherchez d'abord, vous avez la suite ». Le royaume de Dieu, et toutes les choses vous seront données en plus. Or nous, souvent, on cherche d'abord toutes les choses en plus avant de chercher le royaume de Dieu, et ça marche pas comme ça. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Je vais prier pour terminer ce message. Merci Seigneur, en effet, parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu n'as pas quitté la terre pour nous abandonner à notre sort, mais non content de nous avoir sauvés en sacrifiant ta vie. Tu nous as envoyé ton Saint-Esprit. Et merci Seigneur, parce que tu nous aides au quotidien, dans ce monde qui est parfois hostile, dans toutes ces choses qui peuvent nous tenter et nous détourner de toi, tu nous aides à regarder à toi. Et nous, à ce que notre Église ne soit pas une Église qui se taise ou une Église qui parle à tort et à travers, mais que notre voix soit entendue, Seigneur, que les personnes qui viennent parler de toi, annoncer tes messages, soient inspirées par ton Esprit, Seigneur. Aide-nous à toujours rester sur cette ligne, à toujours rester sur ce chemin vers toi, et à ne pas nous détourner pour des raisons humaine. Et merci parce que tu nous as confié beaucoup. Tu nous as confié, Seigneur, d'annoncer au monde cette bonne nouvelle, cette joie de pouvoir être sauvé grâce à ton sacrifice. Et aide-nous à le faire, Seigneur, de la bonne façon. Et quand les mots nous sont interdits, aide-nous à témoigner, à être tout le temps connus comme des sources d'amour, de paix, de joie, de grâce, Seigneur. Et non comme des gens aigris et rebelles, toujours en désaccord. Aide-nous, Seigneur, à prier aussi et à demander ce qu'il convient. Et je te remets la fin de ce culte et notamment ce moment de prière que nous aurons pour l'Inde, afin que tu nous guides aussi dans nos prières, Seigneur. Nous ne vivons pas là-bas, nous ne connaissons pas toute leur situation et nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander. Mais tu connais toutes choses, Seigneur. Aussi, inspire-nous et conduis-nous dans ces moments. Amen.